פרשת כי תצא. Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, Léor et Chaim, Tomi, Shanim, Némim. Nous avons trois sujets au début de la paracha qui se succèdent. Nous avons la problématique de la femme de belle apparence, que la Torah autorise aux soldats qui vont en guerre. Il a le droit d'avoir un premier rapport avec elle quand elle est encore captive. Puis elle doit faire un processus de conversion, et si elle accepte, alors elle se convertit. Sinon, alors elle sera libre. Puis vient le sujet, si un homme a deux femmes, une qu'il aime et une qu'il aime moins, qu'il déteste, et il devra reconnaître l'aîné, son aîné, même si c'est l'enfant de la femme qu'il déteste, il devra lui reconnaître, le reconnaître comme son aîné et lui donner double part de ce qu'il possède, c'est le béchor. Puis vient le problème de Ben Sorer Umoré, l'enfant rebelle. L'enfant rebelle, c'est un enfant qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, qui n'a pas 13 ans, donc c'est un âge, un temps vraiment limité. Et nous disent les maîtres que jamais ce cas-là n'a pu se réaliser, il y a tellement de conditions que ce cas-là ne s'est jamais réalisé dans les faits. Et alors, on nous dit que pourquoi il est inscrit, Droche Vekabel Sachar. Apprends et développe les choses de telle manière que tu auras du mérite. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'il est dit. Qui est l'Ish Ben Sorer Umoré? Si un homme a un enfant qui est Sorer Umoré, qui s'écarte et qui se rebelle, il n'écoute pas ni la voix de son père, ni la voix de sa mère. Ils l'ont corrigé, mais il sait woto. Velo Ishma Alem, il ne les entend pas. Mais Tafsubo a vivé Imo. Alors le père et la mère le prendront, et l'amèneront au Zirkneiro, et l'amèneront devant le tribunal. Véamou, ils diront, voilà notre fils, bénénouzé, Sorer Umoré. Il ne nous écoute pas. Zolel ve sauvé. Il se donne à la boisson et il mange beaucoup. Orgamou, Kolanche, Iroba, Vanim Vamet. Et à ce moment-là, il est passible de mort, cet enfant-là. Il nous dit, Chachamim, que Nedon Al-Shem Sofo. C'est-à-dire qu'il est condamné à mort, pas pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il risque de faire dans le futur. Donc il s'agit, en fait, de quelqu'un qui a pris des habitudes, déjà tout petit, à peine adolescent, de se droguer, par exemple. Donc il a commencé à avoir des attitudes de révolte et de boire. Alors aujourd'hui on peut dire que c'est la drogue. Alors les parents qui sont désespérés, qui ont essayé de l'éduquer, se déchargent de leur fonction, de leur rôle et le confient à la collectivité. Et nous disent les maîtres, à partir du moment où un parent se décharge, perd espoir de son fils, de le redresser, de le ramener, alors considère ton enfant comme si que tu l'as tué. C'est les parents, l'enfant Ben Sorer Umoré n'est hayav mita, n'est passible de mort que si les parents se déchargent de leur responsabilité parce qu'ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus quoi faire, sur les bras de la communauté. Et c'est ça le sens de Urgamu oto kolanche iroba vanim vamet. Et c'est le sens aussi que ce que nous disons, maître. Que, il est dit ici, que Darouche ve Kabel Sachar, il n'y a pas de, ce cas-là n'est pas réel. C'est un cas d'école théorique. Alors, mais revenons en amont. Donc, la Torah nous dit, pourquoi on a juxtaposé ces trois cas pour nous dire, la femme de belle apparence, elle est permise. La Torah te l'autorise. L'audibra Torah et la kenege d'etzerara, parce que si on te le permet pas, tu vas transgresser quand même. Et dans certains cas, la Torah autorise, en l'occurrence celui-ci, de transgresser, enfin, on l'autorise ce qui pourrait devenir une transgression. Pour éviter à l'homme de fauter. Puis, on nous dit, si tu t'es marié avec cette femme, sache que tu la haïras. Et que tu auras un problème avec lui, c'est la suite, qui tienne à l'éhiche et t'énachim, un homme qui a deux femmes. Et l'aîné de ses enfants, et justement l'enfant de cette femme-là qui haït. Et après, il va avoir un ben sorer umoré. Alors la question qui se pose, c'est comment ça se passe? Alors comment on en arrive là? Nous disons, Rachamim, comment on en arrive là? Comment on arrive que quelqu'un est désespéré de l'attitude de son fils? Il a essayé de l'éduquer, ça n'a pas marché. Il dit, parce qu'on te dit, remonte en amont. Comment ça se passe au départ? Comment tu as choisi sa mère? Quelle était la démarche que tu as fait quand tu as cherché épouse? Pourquoi as-tu voulu te marier? Dans quelle intention tu as choisi cette femme? As-tu vérifié ses qualités? As-tu vérifié dans quelle direction est-ce qu'elle a les mêmes désirs de construire un foyer? As-tu pensé aux enfants que tu auras après? Etc. Donc on l'a pas. Donc l'homme a agi de manière, il a dissocié ses actions. Le chacham, c'est déjà au départ, il se projette dans l'avenir. Et c'est au chacham à roet anolad. Déjà au départ, il sait où il va. Donc il sait qu'il doit prendre une épouse, il doit construire un foyer avec qui va être la résidence de la Shekhina dans son foyer. Il prend une femme qui correspond, qui a des qualités, qui a de la sniout, qui a de la Yirat Shamayim, qui est d'une bonne famille, qui a appris la Torah et les Mitzvot. L'essentiel étant les bonnes qualités, les Midot Tovot. Puis il construit avec elle son foyer. Il ne sera pas amené à la haïr. Pourquoi va-t-il dire après, qui tient Naïch et Naïch, Ahad Ahouva? Comment as-tu amené à ne pas aimer ton épouse? Et après cela, tu auras un enfant qui va se rebeller. Pourquoi l'enfant, il se rebelle tout seul? C'est les conséquences de nos actes. De là, nous apprenons la responsabilité que nous avons dans la construction de notre foyer, dans notre relation avec notre épouse, dans notre manière de vivre en harmonie, en concorde, avec le respect, avec le kavod qui est dû chacun à chacun, de sorte que nos enfants prennent exemple. Mais si nous-mêmes nous avons des faiblesses, nous permettons des écarts de langage, nous permettons d'agir comme bon nous semble, alors ne nous étonnons pas plus tard que chas v'shalom, il y aura des dérives, que les enfants se détournent. C'est le sens ici de cet enseignement extraordinaire qui est mentionné dans la paracha. Est-ce que Chayon dit, Dorshim Semichut, on est Doresh, la juxtaposition. Et cette juxtaposition-là nous amène, elle est véritablement d'actualité. C'est la construction du foyer. Pourquoi aujourd'hui un jeune homme voudra-t-il prendre épouse? Pourquoi doit-il fonder un foyer? Dans quelle optique? Est-ce qu'on pense à quoi quand on se marie? Quels sont les objectifs? A-t-on, bichlal, des objectifs? De quelle manière fixe-t-on les objectifs? Il faut réfléchir à cela. Après, de quelle manière se comporte-t-on avec son épouse? Alors au début, c'est tout feu, tout flamme. C'est le grand amour. Mais après, quand on rentre dans la routine du quotidien, est-ce qu'on se permettrait d'avoir quelques écarts de langage? Quelques écarts d'attitude, un manque de respect, un manque de considération. Alors c'est ce qui est marqué ici, qu'il y a une femme qu'il n'aime pas. Il n'aime pas. Comment on arrivait là? Et toutes ces attitudes amènent justement la conséquence sur les enfants, qui amène la destruction complète du foyer. Alors si, chas v'shalom, un enfant est rebelle tel qu'il est mentionné ici, c'est-à-dire que c'est une rébellion totale par rapport à l'attitude des parents, l'attitude du père ou l'attitude de la mère. S'il n'y a pas de concorde et d'entente, alors nous avons déjà dit à plusieurs reprises que « Ish v'isha shezachou, shechina shérouya benehem »« Ish » est écrit « Aleph Yod Shin » et « Isha » c'est « Aleph Shin He ». Nous avons les deux, dans les deux mots, le mot « esh ». Mais dans l'homme, il y a le « yod » au milieu, et dans la femme, il y a le « he ».« Yod ke », c'est le « shem avay », c'est « shem hachem ». Si on se comporte comme on doit, en ayant le respect de l'autre, en sachant chacun quelle est sa fonction, quel est son rôle, comment on doit se comporter, de telle sorte qu'il y a la Shekhina qui réside dans le foyer. Et c'est ça le but de la de fonder un foyer, c'est de faire de sa maison, de sa demeure, une résidence pour Akadosh Baruch Hu. Tout en sachant que l'homme et la femme, en étant unis dans l'harmonie, participent de la Shekhina sur terre. Alors ça dépend comment on se comporte, comment on se tient, comment on parle, comment est-ce qu'on a des écarts de langage, est-ce qu'on se permet de dire à son épouse des mots déplacés, des mots désobligeants, on rabaisse la personne. Est-ce que la femme va aussi déraper dans son langage? Tout ça va de pair. Si on sait se maintenir dans la kdoucha des yeux, de la bouche et des actions, alors le foyer est paisible. Alors à ce moment-là, on n'arrivera pas à dire qu'il déteste cette femme-là. Et l'enfant ne pourra pas devenir rebelle. Nous avons remarqué que ce reproche de cette paracha est fait sur David Ameler. Qu'est-il dit? David Ameler, il a pris, en sortant en guerre, quand Meler sort, il a pris Maacha. Cette femme-là, elle était une captive, donc il a eu un rapport avec elle, il a eu ce fils Absalom. Et Absalom, plus tard, va se rebeller contre son père. À cause, justement, d'une action de la famille, il y a eu un problème. Donc on reproche à David, pourquoi ton fils Absalom s'est-il rebellé contre toi? Il a été rebelle, ben sorer ou moré, en fin de compte, il en est mort. Il a été tué à la guerre. Parce que toi, au départ, tu as transgressé, enfin, tu as utilisé la permission de la Torah de prendre cette femme, alors qu'en vérité, il ne convient pas de la prendre. C'est-à-dire que la femme de belle apparence, elle est juste d'apparence, c'est pour son physique qu'il la désire. Il ne la désire pas pour ses qualités humaines. Il ne la désire pas parce qu'elle a une bonne éducation. Il ne la désire pas parce qu'elle est tsinoura et avec la Yirat Shamaim et qu'elle veut fonder un foyer, éduquer ses enfants dans la Torah et les mitzvot. Ça, c'est l'essentiel. Au moment où on se marie, on doit se projeter sur Be'ezrat Hashem, comment nous allons éduquer nos enfants et nos enfants seront des gens pieux, Yire Shamaim, qui étudie la Torah et qui donne satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'essentiel de la smichut. C'est l'essentiel de la construction du foyer. La smichut est que lorsqu'on prend épouse, déjà, on doit se projeter. Les années passent tellement vite qu'on doit se projeter sur ce qu'on va donner. Et c'est l'essentiel de ce qui a marqué ici. Ça, c'est la première partie de la dracha. Plus loin, nous avons une autre dracha. Qu'est-il dit? Il est dit, si tu vois, il y a trois sujets qui se suivent. Ki kare kantzipor lefanecha baderech obocholet. C'est le fameux sujet de la mer qui couvre les oisillons. Donc la Torah nous dit, tu renvoies la mer, tu prends les oisillons. Tu n'as pas le droit de prendre les oisillons devant la mer. Puis après, il est dit, quand tu construiras une maison neuve, tu feras un parapet à ton toit, de sorte que personne ne tombe. Après, il est dit, quand tu sèmeras ton champ, tu ne sèmeras pas le champ avec deux espèces des différentes, kilaïm, par exemple de la vigne avec du blé, etc. Après, il y a marqué, tu ne laboureras pas l'otaroche, béchor, bachamor, yardav, tu ne dois pas labourer avec un taureau et un âne attelés ensemble au labour. L'autre, et après, marqué l'autre, il va charnes. Tu ne mettras pas des vêtements où il y a du lin et du lin tissé, du lin et de la lin tissé ensemble. Puis il est dit, guidilim ta aselor. Et là, il est marqué, tu pourras faire des guidilim, des tzitzit. Alors, les tzitzit, on a le droit de les faire. Aujourd'hui pas, mais à l'époque, quand il y avait le bleu azur du chilazol, alors on pouvait faire, il était permis de faire que le tzitzit était en kilaïm du lin et de la laine ensemble. Qu'est-ce que nous apprenons de là? Nous dit le Zohar que l'allusion qui est faite ici sur l'oiseau que je renvoie, la mer que je renvoie, je récupère les oisillons ou les œufs, quand la mer revient, nous dit le Zohar, elle trouve son nid vide. Et Abba célèbre sa complainte, s'élève vers Dieu et dit, Ribono Shel Olam, j'ai laissé les enfants dans le nid et je viens, je retrouve le nid détruit. Et cette plainte-là de cet oiseau monte tellement haut dans les cieux que Akash Vohru se prend de miséricorde pour le Ham Israël qui est en exil. Nous dit le Zohar, dans l'introduction au Tikkunim, qu'il s'agit en fait de la Shekhinah Kedosha, qui se lamente, qui est l'oiseau qui couvre son nid à entourer de ses enfants qui sont les Bnei Israël. Et est venu le rachat et a chassé la Shekhinah, a détruit le temple et a exilé les enfants. Et tous les jours, la Shekhinah élève sa douleur devant Akadosh Baruch Hu, lui dit, maître du monde, voilà, mes enfants, mon nid est détruit, ma demeure est détruite. Et cette mitzvah-là est une ségoula nifla pour rallonger la vie et ramener la geoula, comme disent le Ramban, ramène cela à plusieurs endroits. Après, il est dit, quand tu construis, si tu fais cette mitzvah, tu pourras construire une maison neuve. Il s'agit de la reconstruction du temple. Et ce temple-là sera de telle sorte que jamais quelqu'un tombera, qu'il sera établi de manière absolue, sans qu'il y ait jamais de faille. Personne ne tombe. Velotassim damim bebetera. Il n'y aura pas de sang versé, etc. Donc, ce sera la perfection. Tu construis un temple tel que ta maison, la maison, la demeure de Dieu est parfaite. Après, il est dit, tu vas t'élargir sur la terre. Donc, la terre que tu vas labourer, tu la laboureras chaque espèce séparée. De sorte qu'il n'y a pas de mélange entre les espèces. Il ne faut pas dénaturer les éléments de la création. Puis il est dit, tu ne laboureras pas avec le taureau qui symbolise la dureté, la rigueur, et avec l'âne qui symbolise la hesed. Il faut chacun séparer. Encore une fois, les midot, il ne faut pas les mélanger, en faire, les contracter et en faire une mayonnaise, de sorte qu'ils perdent leur spécificité. Il y a des éléments qui sont le blé, il y a des éléments qui sont la vigne. Le blé symbolisant la bonté, la connaissance, et la vigne symbolisant le secret, la dureté. La vigne, le vin est rouge. L'âne et le taureau aussi, ce sont deux forces qui sont opposées, il faut pas les mélanger et en faire une troisième espèce. Il faut les utiliser chacun à bon escient. Puis vient le tsemer et le pishtim, c'est la même notion. Tsemer, c'est la bonté, la laine, c'est la bonté, le lin est la rigueur. Il faut pas en faire une troisième espèce, mais il faut savoir les utiliser chacun à bon escient. Et là, quand on fait un tzitzit, c'est-à-dire qu'on va construire un vêtement avec lequel on s'enveloppe, ça, et cela symbolise exactement la demeure, le vêtement nous enveloppe. Et la demeure nous enveloppe. On construit son intérieur. On construit son intérieur de telle manière qu'il y a la possibilité de faire l'union entre les deux éléments. Comme nous disent Rachamim, le olam tiyeh smol doha v'yamim mekarevet. Toujours, il faut utiliser la gauche pour repousser, pour sanctionner, et la droite pour montrer l'amour. Ça veut dire que d'abord on sanctionne avec la gauche. C'est pourquoi la gauche? Parce que la gauche est limitée. La sanction doit être limitée, mais elle doit toujours être accompagnée du rapprochement de la droite, de l'amour. Si ces deux midot, qualités, sont unies, entre l'homme et sa femme, entre la femme et l'homme, entre l'homme et son fils, entre la mère et son enfant, alors c'est évident que là, nous avons une perfection dans l'attitude humaine. Nous avons une perfection dans la société. Nous avons une réalité des rapports humains qui sont parfaits dans la cellule familiale. Et automatiquement, ça va se répandre et s'élargir à la société tout entière, de telle sorte, comme il est dit au début, quand tu construiras une maison neuve, un temple nouveau, une reconstruction de ton état, de la résidence de Dieu. L'âme Israël revient sur sa terre et construit une société établie, une société où la justice sociale règne, où il y a une égalité, un kavod pour chacun. Il n'y a pas de ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui le subissent. Il y a un partage des richesses, une harmonie, une concorde, un bien-être. C'est ça le but de la création de la maison. Alors de la même manière que quand tu construis ta propre maison, c'est comme ça qu'il faut le construire, Et c'est ainsi alors que les enfants seront des enfants parfaits, éduqués comme il faut dans le Derech HaTorah, qui n'auront pas de ressentiment et ne voudront jamais se rebeller ou se révolter. De même, nous devons construire une société où règne l'harmonie entre les individus, où règne la concorde, où règne l'égalité, le partage des richesses et que personne ne se sente lésé. Yiratson, que ce tzitzit que nous voulons construire, c'est le vêtement qui nous enveloppe, chaque individu, seul, dans sa petite cellule familiale, mais aussi l'ensemble de Ham Israël. L'ensemble de Ham Israël doit être enveloppé d'un tzitzit de Gidilim Ta'aselach sur les quatre coins de ton vêtement avec lequel tu te couvres, de telle sorte que le vêtement est tellement de bonne qualité que tout le monde, il y fait bon vivre dans l'harmonie, dans la concorde, parce que la résidence, ce pays dans lequel nous vivons, dans lequel nous évoluons, est véritablement la résidence de Dieu. N'oublions pas que le nom de Dieu est Shalom. Ce n'est pas un nom emprunté, c'est véritablement son nom. Donc quand le Shalom règne, le shalom ne veut pas dire la paix, veut dire la concorde, l'harmonie, le bien-être. Et tout le monde se sent solidaire, se sent attaché à l'autre, parce qu'il y a personne ne se sent lésé. Alors l'abondance, la réussite, la prospérité, la satisfaction et tous les bienfaits possibles, imaginables, qui peuvent descendre des cieux, se déversent sur nous. Bebiyat goel tzedek bimera be'amenu baruch adonai le'olam. Amen ve'amen.